Alors, le chrétien et la politique, je pense que ce sujet n'est pas parmi les plus importants, mais c'est quand même l'occasion, c'est bien de temps en temps de saisir l'occasion de l'aborder, parce qu'il faut que nous ayons un minimum d'idées sur cette question. Je vous propose d'essayer de répondre à cette question. Premièrement, sommes-nous des citoyens comme les autres? Deuxièmement, faut-il s'intéresser à la politique? Troisièmement, y a-t-il un système politique selon Dieu? Quatrièmement, quelles sont nos opinions politiques? Cinquièmement, faut-il voter? Et si oui, pour qui? Sixièmement, les chrétiens peuvent-ils faire de la politique? Et enfin, dans une septième, un septième paragraphe, nous allons examiner trois questions d'actualité. Alors, première question, sommes-nous des citoyens comme les autres? Alors, vous allez voir très souvent dans cette présentation, je vais jouer dans la nuance, en disant beaucoup un peu oui et un peu non. Hein, voilà. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut être nuancé. Je me garderai bien de me positionner dans des extrêmes. Oui, dans un certain sens, nous sommes des citoyens comme les autres, et d'ailleurs, nous sommes bien contents de l'être, parce que ça nous donne des avantages. Nous bénéficions de notre statut de citoyen français ou autre. Et Paul lui-même en a profité en faisant valoir à un moment donné, à deux reprises, son statut de citoyen romain, ce qui lui a évité des problèmes. Donc quand il est à Jérusalem, qu'il est malmené par les Juifs, voilà qu'il se met à dire je suis juif de Tarse, citoyen d'une ville de la Cilicie qui n'est pas sans renom. Donc il se positionne en tant que citoyen romain, ce qui va lui attirer la protection des autorités romaines. Et un peu plus loin, chapitre 22, même chose, Paul dit au centurion qui était près de lui, vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et qui n'est pas condamné? Et quand le centurion entendit cela, il s'en alla faire son rapport au Gilliarque. Vous voyez, Paul use de sa citoyenneté romaine pour en faire valoir les droits. Donc, il serait quand même un petit peu ingrat de dire que nous voulons bien être citoyens quand ça nous procure des avantages et que nous ne voulons pas l'être pour nous dissocier de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, en tant que citoyens, nous sommes appelés à respecter les autorités de notre pays. C'est ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Donc, il faut rendre à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Nous honorons les autorités de notre pays, nous les respectons et nous faisons nos devoirs de citoyens. Il y a quand même une limite à cette obéissance, à ce respect des autorités qui se situe dans des cas extrêmes, dans la mesure où ce qui serait demandé par l'autorité serait contraire à notre conscience. C'est ce qu'on voit clairement dans le livre des Actes, lorsque les autorités vont demander aux apôtres de cesser d'évangéliser. Jésus leur a dit d'évangéliser. Eh bien, ils vont répondre. Pierre et les apôtres répondant dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, lorsque l'autorité interdit quelque chose que la Bible nous recommande expressément, nous allons faire de la désobéissance citoyenne. Lorsque également l'autorité nous obligerait, si l'autorité nous obligeait à faire quelque chose que la Bible condamne, là aussi, nous devrions faire preuve de désobéissance citoyenne. Donc les exceptions sont motivées par la conscience et non pas par une posture d'indépendance. Attention à ne pas dire pour autant les autorités de mon pays sont athées, ou bien font passer des lois qui sont contre la Bible, donc je m'affranchis de toute obéissance à cette autorité. Attention, non, je m'affranchis de toute obéissance qui me mettrait en défaut par rapport à Dieu, mais ce n'est pas parce que, je vais donner un exemple concret, en France on a voté le mariage pour tous, que je ne vais plus respecter les limitations de vitesse. Hein? D'accord? Ça ne me donne pas la liberté d'enfreindre n'importe quoi parce que j'estime que les autorités sont disqualifiées. C'est un peu trop facile ça. Voilà. Donc c'est pas ça du tout. Nous sommes des citoyens. Bon, ensuite, bien sûr, des citoyens un peu particuliers parce que nous sommes des citoyens qui transitent. Nous savons que notre citoyenneté est provisoire. Nous avons une autre citoyenneté qui est céleste. C'est ce que dit Hébreux 13. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Et Philippiens 3, même chose, notre citoyenneté ou notre bourgeoisie et dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus comme Sauveur. Voilà, donc nous sommes de passage, des citoyens avec un titre de séjour, dans un certain sens, qui sont en train de transiter vers leur patrie céleste. Le Seigneur le dit aussi en Jean 17, il dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Voilà, c'est un passage, Pierre le dit également, « Je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. » Donc vous voyez, vous êtes des forains, c'est des voyageurs, des étrangers, mais on voit bien dans ce qu'il dit après que cette non-citoyenneté, elle est morale. Hein, donc, puisque vous n'êtes pas du monde, ne pratiquez pas les péchés du monde. Donc, ce dont nous ne faisons pas partie, c'est de ce système mondain animé par de mauvaises intentions. Donc, c'est d'un système moral que nous sommes étrangers et pas de la France ou du pays où nous habitons. Donc, c'est spirituellement que nous sommes étrangers. Donc, je dirais que plutôt oui, nous sommes vraiment des citoyens à part entière. Deuxième question, faut-il s'intéresser à la politique? Alors là, je vais aussi dire un peu oui et un peu non. Dans un certain sens, Jésus a été rejeté. Il a dit « Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici ». Donc, quelque part, nous ne sommes plus concernés par le devenir du monde. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Pour nous, c'est ça la solution. Et donc, nous sommes un peu déconnectés de ce choix qu'a fait l'humanité de rejeter le Messie. Et maintenant, elle en assume les conséquences. Elle n'a qu'à faire sa politique toute seule. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, le Seigneur Jésus dit bien que le chef de ce monde, c'est Satan. Il le dit en Jean 14. Donc, on pourrait dire, voilà, il ne faut pas s'occuper de ce système de Satan. On ne va quand même pas s'impliquer dans l'administration satanique du monde. C'est quand même une manière très, très négative de voir les choses, que je vais essayer de modérer un peu. Parce que le monde, il est bien clair que le monde, dans la Bible, ce n'est pas la société, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt un système moral qui est animé par, on l'a dit hier, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est un ensemble de principes moraux qui animent les humains. Ce n'est pas exactement la même chose que la société des hommes. Voilà. Toutefois, c'est un peu imbriqué, je suis d'accord. C'est difficile de dire, bon, la société française, c'est bien, mais enfin, le monde en France, c'est mal. Bon, c'est un peu compliqué, ça. Donc, on est conscient que l'espoir est mince de voir les choses évoluer favorablement. Il y a peut-être un petit quelque chose à faire quand même. Et pour autant, notre combat principal, il est ailleurs. Finalement, notre solution, c'est quoi ? C'est d'évangéliser, d'annoncer l'évangile pour que, moralement, les gens changent. Et donc, que se crée un autre système, qu'on peut appeler l'Église, dans lequel les choses se réalisent selon la pensée de Dieu. Et plus cette Église sera omniprésente, plus la société va être changée. Donc, le monde va disparaître, finalement. Il ne restera plus que la société. Hein ? Voilà. C'est un peu ça, l'idée. Donc, nous sommes pas vraiment passionné par la politique, mais s'il reste un petit peu d'espoir de faire quelque chose, ça nous intéresse. Et pour autant, il faut quand même s'intéresser au moins un minimum, parce que le monde connaît des évolutions, il y a des événements géopolitiques qui semblent préparer la fin des temps. Et ça, il faut savoir le discerner aussi. Jésus nous y invite. Il leur dit une parabole, vous voyez le figuier et tous les arbres, quand ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-même en les voyant que l'été est déjà proche. De même aussi, quand vous verrez arriver ces choses, alors il a annoncé un ensemble d'événements, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est quand même intéressant aussi pour nous chrétiens d'être à l'affût d'indices qui nous montrent la proximité du royaume de Dieu, d'indices dans les événements qui se produisent. Donc l'actualité nous intéresse, d'autant plus qu'elle nous permet aussi de prier. Parce qu'on a des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, avec des chrétiens qui sont persécutés, avec des pays qui sont à un tournant de leur histoire. Donc tout ça nous permet de prier. J'exhorte avant toute chose qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc au strict minimum, Il est nécessaire de s'intéresser à l'actualité, au moins pour prier. Et puis aussi pour voir venir les événements annoncés par la Bible. Alors, on pourrait se dire, si dans un pays il y avait 100% de chrétiens, y aurait-il un système politique idéal à mettre en place ? Y a-t-il un système politique selon Dieu ? C'est une question qu'il faut se poser, elle est difficile, hein. J'avoue que je ne suis pas sûr de l'avoir totalement cernée. Si on regarde dans la Bible, on voit se succéder plusieurs systèmes politiques. Au temps de Moïse et de Josué, c'est un conducteur spirituel en relation avec Dieu qui dirige le peuple seul, quasiment seul, mais pas tout à fait. Il y a une part de décentralisation, puisque sur le conseil de Jéthro, Moïse va nommer 70 anciens qui vont juger les petites affaires. Donc, un conducteur en relation directe avec Dieu et un petit peu de décentralisation. Ensuite, on passe aux juges. Ils sont un petit peu, c'est un peu des francs-tireurs, hein, qui sont auto-suscités à droite et à gauche et qui vont exercer un leadership un petit peu vague du peuple d'Israël. Donc, il y en a eu 13, hein, si je me souviens bien. Et on voit que c'est quand même assez peu efficace parce que sans arrêt, le peuple d'Israël passe de la fidélité à l'infidélité, de l'autonomie à des invasions. Et il y a cette phrase qui revient sans cesse dans le livre des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Donc ce système, visiblement, n'est pas vraiment approuvé par la parole de Dieu. Donc je l'ai mis en orange, vous voyez, pour montrer que vert, c'était selon la pensée de Dieu, hein, Moïse a été suscité, Josué a pris le relais. Orange, ça s'est mis en place un peu comme ça, et puis c'est pas très efficace. Ensuite, on est passé au roi. C'était pas selon la volonté de Dieu qu'il y ait des rois. Hein, c'était les nations qui avaient des rois. Et donc, ça va fonctionner bien de Saül, pour commencer tout à fait au début, jusqu'à Sédécias, pour aller jusqu'au dernier roi de Juda, avec des hauts et des bas. Avec des rois fidèles, mais des rois idolâtres. Des victoires, des défaites. Des conquêtes, des reculs. Donc, ce n'était pas vraiment le plan de Dieu qu'il y ait des rois. Ensuite, on passe au Nouveau Testament. Le Messie vient, il est rejeté. Ça non plus, ce n'est pas selon la volonté de Dieu qu'il soit rejeté. Enfin, d'une certaine manière, c'était quand même le plan de Dieu, mais ce n'était pas l'idéal divin, on va dire. À ce moment-là, le pouvoir passe aux païens. C'est la diaspora des Juifs, c'est le temps des nations. Voilà, les nations païennes font leur politique dans le monde. Il n'y a plus vraiment de peuple de Dieu. Et alors, on voit apparaître comme une sorte de petite isola, on va dire, dans ce monde qui n'a pas voulu du Messie, l'Église. Alors l'Église n'est pas une entité politique, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est quand même intéressant de regarder quel est le système, quelle est la direction, comment Dieu conçoit la direction de l'Église. Ça nous donne aussi une petite idée du modèle. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Église ? Des anciens et des diacres, donc une sorte de conseil des sages, que sont les anciens. Alors, c'est notre conviction, hein, et partagée par beaucoup d'églises évangéliques maintenant, ou protestantes même, que l'Église locale est dirigée par un collège d'anciens, et ensuite il y a des acteurs qui sont les serviteurs, les diacres. Donc un conseil de sages et puis une sorte d'équipe d'exécutants, on va dire. Hein, voilà. Ça peut donner une idée d'un système politique. C'est quelque chose d'équilibré parce que le leadership est partagé, ce qui est très intéressant. En même temps, c'est fragile parce que un système qui n'est pas tellement centralisé, si l'équipe de direction ne s'entend pas, c'est difficile. Mais ça, c'est un système voulu par Dieu. Alors, encore une fois, hein, dans une entité qui est spirituelle, qui n'est pas politique. Et puis, plus tard, quand Jésus reviendra pour régner cette fois-ci, ce sera ce qu'on appelle le millénium. Jésus sera à la tête. Les saints, les croyants, seront associés à son règne. On ne sait pas exactement de quelle manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus étant là, il n'y aura pas tellement de soucis à se faire pour que ça fonctionne. Donc, paix et prospérité. Alors, si on regarde dans la société d'hier et d'aujourd'hui, a-t-on vu ce type de système politique fonctionner ? Les grands systèmes politiques qui ont existé, c'est quoi ? C'est les dictatures, les théocraties, les monarchies constitutionnelles et les démocraties. Là, on fait à peu près le tour de tout ce qui a pu exister, en mettant les empereurs avec les dictateurs, etc. Bon, je simplifie un peu. Il y a encore aujourd'hui des fonctionnements de ce type. Peut-être qu'on va trouver Il me semble que les modèles de l'Ancien Testament sont assez proches des théocraties. Et par contre, les démocraties, par certains aspects, s'inspirent sans doute du modèle de l'Église. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Je vais prendre la monarchie française jusqu'à la Révolution, monarchie absolue de droit divin. L'aspect théocratique, là, il vient du fait que le roi est consacré par l'archevêque de Reims, hein, dans la royauté française. Donc, il est sacré. Et donc, ensuite, le roi est censé être sous la conduite directe de Dieu. D'où vient-il, ce roi? C'est le fils du roi précédent. Donc, c'est comme ça que ça se transmet. Et ensuite, il a un ensemble de fonctionnaires, hein, des ministres, des conseillers, des intendants. Et puis ensuite, il y a tous les sujets. Donc, on est dans une sorte de théocratie, parce que c'est l'archevêque donc, qui consacre le roi. Mais la dépendance de Dieu, elle est quand même extrêmement variable. Hein, entre un roi qui va être pieux et qui va chercher la volonté de Dieu pour son royaume, et puis un roi qui va être consacré par l'archevêque, et puis ensuite qui va faire ce qu'il a envie de faire. Donc, vous voyez, l'aspect théocratique, là, il est quand même vraiment ténu. Hein. C'est formellement oui, mais en réalité, pas tellement. Et donc, on va plus trouver un système vraiment basé sur la religion dans la République islamique d'Iran aujourd'hui. Parce que là, vous avez donc un président de la République qui est élu, mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'Assemblée des Mollahs, qui sont élus par le peuple, mais qui sont des religieux, qui vont choisir le guide de la révolution, donc qui est aujourd'hui M. Ali Hossein Khamenei, qui est le successeur de l'ayatollah Khomeini, et qui, lui, va énormément influencer et contrôler le président de la République. Vous voyez là une influence religieuse, pas simplement dans le statut, mais dans la pensée. Vous voyez ? Donc là, on a vraiment un système qui est assez théocratique. Bon, pour autant... Le problème, c'est que ce n'est pas le bon Dieu, hein, en l'occurrence. Mais là, on voit vraiment un système théocratique fonctionner. Si on prend ensuite les démocraties parlementaires, comme la France, c'est vrai que quelque part, il y a l'idée des anciens et des diacres. Si on considère le Parlement comme un conseil de sages qui crée les lois, qui réfléchit, qui débat... Et ensuite, l'exécutif, comme une sorte d'équipe de diacres, de super diacres, avec un président, des ministres, qui exécutent. Vous voyez ? Il y a de ça. Il y a un peu l'idée. Sauf que là, tous ces gens-là sont élus par le peuple. Alors, ça pose aussi la question du mode d'élection, enfin, du mode de désignation des anciens et des diacres. Hein. Mais en admettant qu'ici, ils sont élus par le peuple, on a ce conseil de sages qui est pluriel, et ensuite des exécutants, qui applique les lois votées par le Parlement. Et c'est encore plus net, je trouve, en Suisse, où à la fois le législatif et l'exécutif sont des équipes, sont des conseils. L'exécutif, en Suisse, c'est ce qu'on appelle le conseil fédéral. Alors, on a une Suissesse parmi nous, où est-ce qu'elle est ? Voilà, je parle sous son contrôle. Hein. Donc, il y a un conseil fédéral, c'est une équipe, hein, qui est élu par l'Assemblée fédérale et qui ensuite va travailler ensemble, comme un ensemble de ministères, comme un gouvernement. Elle va quand même choisir un représentant qui va porter la parole du groupe par année, chaque année, mais j'avoue que je ne sais même pas qui est l'actuel représentant. Bon, peu importe, hein, ça ne ressort pas tellement, je ne sais même pas comment on l'appelle exactement. Vous voyez, donc, y compris l'exécutif est une équipe. Donc, ce côté pluriel, collégial, me paraît assez inspiré de modèles bibliques. On évite un leadership unique, voyez, une organisation pyramidale. Donc, il y a, je pense, dans ces modes de fonctionnement, une certaine inspiration biblique, avec les faiblesses, malheureusement, du fait que c'est toujours, évidemment, la majorité qui décide. Ce sont les électeurs qui élisent les députés, qui élisent le président de la République. Donc, c'est toujours un peu l'idée de la majorité du peuple qui s'exprime. Et cette majorité, elle n'est pas forcément la volonté de Dieu, bien sûr. C'est ça, la limite. Mais le système en lui-même est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, bien sûr, on peut réfléchir à ces systèmes politiques, mais on va rester à des choses simples. Le Messie a été rejeté. Nous, chrétiens, nous renonçons un petit peu à la politique de ce monde. Nous respectons les autorités païennes, ou athées, ou parfois chrétiennes, mais nous rendons les choses de César à César, les choses de Dieu à Dieu. Ça ne nous pose pas de problème qu'il y ait scission entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. On s'en accommode. Jésus nous l'a enseigné à vivre comme ça. Donc, nous, la laïcité nous convient. Et moi, j'ai tendance à dire que dans ce verset de Matthieu 22, verset 21, Jésus fonde la laïcité. On dit que la laïcité, c'est Clémenceau, etc., début du XXe siècle en France, mais il me semble que c'est plutôt là que ça commence, la laïcité. L'idée qu'on peut à la fois respecter le temporel d'un côté et le spirituel de l'autre, même s'il n'y a pas accord entre les deux. Et donc, nous ne sommes plus dans une ambition politique par rapport à ce monde, une tentative de conquête ou de prise de pouvoir, nous sommes dans le témoignage. Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous n'imposons rien, nous proposons quelque chose de spirituel. Nous ne cherchons pas à imposer nos idées par la politique, jusqu'à ce que Jésus revienne, et là, lui prendra le pouvoir et gérera le monde selon son projet. Alors, donc, si nous nous intéressons quand même un petit peu à la politique, même si nous ne voulons pas être envahissants, nous pouvons bien avoir des opinions politiques. Un avis sur les débats qui ont lieu dans la société, sur la manière de diriger le pays. Et on pourrait, alors je vais quand même simplifier un peu, parce que sinon ça pourrait nous amener très loin, on va se poser la question, les chrétiens sont-ils de droite ou de gauche? Voilà. On va faire simple. Alors, rassurez-vous, je ne vais ni vous dire de droite ni de gauche. Et encore moins d'extrême droite ou d'extrême gauche. On va essayer de réfléchir aux valeurs de droite et aux valeurs de gauche et en quoi parfois nous sommes plutôt de droite, nous serions plutôt de droite et parfois nous serions plutôt de gauche. Et je vais être assez simplificateur. Je vais prendre des mots un peu standards pour essayer de réfléchir à ce qui est plutôt de gauche, des idées de gauche et des idées de droite. La gauche, c'est pour moi le communisme. C'est le syndicalisme, c'est la défense des ouvriers, c'est la solidarité, c'est les garanties, c'est les droits, c'est le partage, c'est le pouvoir d'achat des familles, c'est l'égalité, c'est aussi l'émancipation, la liberté, c'est l'indulgence, c'est le progrès. On accède beaucoup d'évolution. La droite, c'est quoi? C'est le capitalisme, c'est le travail, c'est la propriété, c'est le libéralisme, on laisse faire un peu l'économie. C'est la responsabilité de chacun, le mérite, les devoirs, la recherche de la réussite, le patrimoine, la hiérarchie, l'autorité, parfois la répression, et puis des valeurs. C'est un peu les thèmes que développent souvent d'un côté la droite, d'un côté la gauche. Alors comment on va se positionner? Alors vous allez voir que on est toujours un petit peu dans les deux, en réalité. Droit ou devoir? Eh bien, Dieu nous a donné le droit d'être enfants de Dieu. Alors, à chaque fois, j'ai mis en rouge ce qui est de gauche et en droite, entre guillemets, ce qui est en bleu ce qui est de droite. Donc, Dieu nous a donné le droit d'être enfants de Dieu. C'est un cadeau gratuit. Voilà, il nous donne quelque chose. Mais en même temps, celui qui dit demeurer en lui, dit Jean dans un autre livre, doit lui-même marcher comme il a marché. Donc, nous avons des devoirs. Ces droits nous donnent des devoirs. Même chose en Tite 2, la grâce de Dieu qui apporte le salut, Dieu donne le salut, généreusement, est apparue à tous les hommes, nous enseignant que cette grâce de Dieu, elle nous amène à l'obéissance, que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, avec du sérieux, de l'application. Vous voyez, donc, un don gratuit qui incite à l'engagement. Les deux choses vont ensemble, mais on commence, un peu, on peut dire, par quelque chose qui est un peu de gauche et on continue par quelque chose qui est un peu de droite. Mérite ou partage? C'est-à-dire que chacun se débrouille et gagne ce qu'il mérite ou bien ce qu'on partage? Un peu les deux. Celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous devons partager avec ceux qui n'ont rien. Mais en même temps, on ne peut pas profiter du système. Si quelqu'un ne veut pas travailler, de Thessaloniciens, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez? Ce n'est pas la cistana. C'est le partage, mais pas la cistana. Ne veut pas travailler, attention, hein, faut voir la nuance. Hein. Ce n'est pas ne peut pas travailler. Alors ceux qui ne peuvent pas travailler, on doit les aider, c'est normal. Mais celui qui ne veut pas travailler, ben mon vieux, débrouille-toi, moi. Hein. Ce n'est pas la cistana ici. Ensuite, même chose en 2 Corinthiens 8, ce n'est pas. Alors, il y a un partage qui doit se faire au sein de l'Église, les riches aident les pauvres, mais enfin, il ne faudrait pas en arriver à ce que les riches deviennent pauvres et que les pauvres deviennent riches. Ce n'est pas ça le but. Voyez, ce n'est pas afin que d'autres soient à leur aise et que vous soyez opprimés, mais c'est sur un principe d'égalité que dans le temps présent, votre abondance supplée à leurs besoins, afin qu'aussi leur abondance supplée à vos besoins, de sorte qu'il y ait égalité. Voilà. On ne va pas appauvrir les riches pour enrichir les pauvres, on va simplement donner une meilleure répartition de la richesse. Donc, partager sans profiter du système. Libéralisme ou syndicalisme? Alors, je sais que les deux mots ne sont pas opposés, hein, mais j'ai pris ces deux mots pour dire, en gros, est-ce que la Bible elle est du côté des patrons ou est-ce qu'elle est du côté des ouvriers, hein, c'est un peu ça la question. Eh bien, les deux, encore une fois. Puisque Paul dit aux esclaves à l'époque, donc on va transposer sans difficulté les employés, servant joyeusement comme a servi au Seigneur, non pas aux hommes, sachant que soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, chacun le recevra du Seigneur. Et vous, maître, faites-en de même, renonçant aux menaces. Donc voilà des ouvriers qui travaillent joyeusement pour leur patron, ils ne sont pas dans la rébellion, ils sont contents de collaborer à l'entreprise, hein. Et pour autant, les patrons ne sont pas dans une sorte de pression, d'exigence permanente, toujours plus. Ils sont aussi respectueux des limites de leurs employés. Même chose en Colossiens. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, servant non pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Voilà, vous êtes engagés dans le service de votre maître. Mais en face, de l'autre côté, maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. Donc vous voyez, il y a une bienveillance réciproque. L'ouvrier est dévoué à son patron, et le patron est bon et juste, et donne à son salarié ce qu'il mérite. Il est soucieux de le rémunérer correctement. Vous voyez, on est dans un équilibre, finalement. Bienveillant, de l'amour, finalement. Hein. Chacun met de l'amour dans sa position. Capitaliser ou consommer? Alors, je ne sais pas si consommer est vraiment une valeur de gauche, mais enfin, bon. Dans l'idée de droite, il y a quand même le patrimoine, etc., la transmission, l'héritage. Que vaut-il mieux? Les deux, un peu les deux. Regardez ce qui est dit des fourmis. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent en été leur vivre, qui font partie des quatre petites choses sur la terre qui sont sages entre les sages. Donc, il convient de mettre de côté. C'est convenable. Mais en même temps, il faut aussi profiter de la vie. Va, mange ton pain avec joie, bois ton vin d'un cœur heureux, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréable. Voilà. On est là aussi pour profiter un peu de ce que Dieu nous donne. Donc, c'est un peu les deux. Mais alors, bien sûr, sans excès. Alors, on rejoint notre discussion d'hier soir, hein. Pour autant, ce patrimoine, on ne va quand même pas non plus le faire monter le plus haut possible. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent des robes. Donc, attention, on n'accumule pas non plus le patrimoine. Et pour ce qui est de la consommation, c'est aussi sans excès. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, on est appelé à la sobriété en toutes choses. Vous voyez, bon, un petit peu de patrimoine, peut-être, pour transmettre quand même un petit peu quelque chose aux enfants. Et puis, si possible, hein, parce que ce n'est pas toujours possible, et puis on va un petit peu profiter de la vie, des bonnes choses, mais sans excès. Vous voyez, on est un peu dans les deux, avec modération. Discipline ou émancipation? Alors, Dans les Proverbes, il y a ce verset qui semble nous dissuader un peu de faire des manifs. Hein. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les gens remuants, car leur calamité surgira tout à coup. Qui sait la ruine des uns et des autres ? Voilà, le chrétien, il n'est pas le premier à se précipiter dans la rue et à crier contre l'autorité. En même temps, ce n'est pas non plus un mouton qui va toujours suivre l'autorité les yeux fermés, hein, puisque, je cite à nouveau ce passage des livres des Actes, où Pierre dit frontalement à l'autorité, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À un moment donné, il y a une désobéissance civique qui s'impose. Je prends un exemple assez simple à comprendre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, mon grand-père, par exemple, a caché des Juifs chez lui en désobéissance à l'autorité en place, l'occupant, en l'occurrence. Il était dans la désobéissance civique, mais il accomplissait un devoir de conscience. Et vous avez peut-être dans vos familles aussi des gens qui ont fait ça, et puis on sait que les chrétiens et les protestants, souvent, ont été les premiers à s'impliquer dans la protection des Juifs. C'était une désobéissance civique qui était motivée par leur conscience. Donc, vous voyez, ni rébellion, ni obéissance aveugle, non plus. Alors, vous voyez, on va multiplier les thèmes comme ça. Conservatisme ou progrès ? C'est-à-dire, faut-il abonder dans une évolution de la société et puis suivre l'évolution de la société, ou bien faut-il être attaché à des valeurs, donc conservateurs ? Un peu les deux aussi, parce que d'un côté, on lit « Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont faite ». Alors, je pense que c'est spirituel, hein, ce n'est pas que la borne du champ. Hein. « Qui creuse une fosse y tombe, qui renverse une clôture », vous voyez les barrières qui sont données par certaines lois, attention, ne pas les renverser. « Qui renverse une clôture, un serpent le mord ». Vous voyez, quelquefois, si on renverse des barrières de lois anciennes, on s'engage dans quelque chose de dangereux. Donc, plutôt conservateur, mais on peut aussi il faut être conscient que parfois nos pères se sont trompés. C'est qu'il y a eu des mauvaises lois dans le passé, et celles-là, il faut les faire changer, on est d'accord. Puisque même Pierre nous dit que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères. Il ne faut pas idéaliser tout ce que pensaient ceux qui nous ont devancés. Parfois, ils se sont trompés. Donc là, il y a une forme d'évolution qui est positive. D'accord ? Vous voyez, donc, dans l'ensemble, quand même, on est plutôt on souhaite un statu quo parce qu'on est conscient que par le passé, des lois ont été beaucoup inspirées par les valeurs chrétiennes. Donc, on est très, très inquiet parfois de voir les choses évoluer. Enfin, il ne faut pas non plus idéaliser ce qui est du passé. Attention aux lois qu'on change, même si on ne peut pas être absolu. Et donc, c'est vrai que pour nous, chrétiens, alors, ça, c'est difficile de l'appliquer à la société, mais dans l'Église, par exemple, parfois, il y a des choses qu'il faut changer, oui, parfois non. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Garde le bon dépôt, c'est plutôt conservateur. Hein. Garde le bon dépôt, garde ce qui a été transmis par les générations qui ont précédé, par l'Esprit Saint qui habite en nous, c'est-à-dire avec le discernement que donne l'Esprit Saint. Donc, on ne peut pas être absolu dans le conservatisme. Bon, je continue encore. Hein, répression ou psychologie ? Voilà, est-ce que... la matraque pour hein, ou alors est-ce qu'on est dans le dialogue, etc. Ben un peu les deux, hein, un peu les deux. Quand on punit le moqueur, le simple devient sage. Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Hein, la Bible, elle est bien pour la discipline dans la famille. Hein, quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Alors vous savez qu'on a voté il n'y a pas longtemps l'interdiction de la fessée. Bon, enfin, il faut dévoir en détail. Hein. Mais c'est pas si simple que ça. C'est les violences physiques. Alors, est-ce qu'une fessée, c'est une violence physique ? Sincèrement, moi, je pense que non. Mais c'est une correction, hein, voilà, qui fait progresser. Bref. Mais en même temps, vous voyez, un autre proverbe un peu plus nuancé qui dit « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. » La règle de sa voix. C'est-à-dire, il faut s'adapter à la nature de l'enfant. Chaque enfant est différent. À un moment donné, il faut peut-être être dans une posture un peu différente. Vous voyez, dans la société aussi, selon les mouvements auxquels on a affaire, la répression n'est pas forcément la bonne solution. On peut être dans le dialogue. Donc, vous voyez, il y a une nuance quand même à avoir. Ce n'est pas le tout répressif. Et puis, ce n'est pas le tout dialogue non plus. Vous voyez, même pour les enfants, dans Colossiens 3, « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. » Donc ça, c'est radical. « Obéissez, point. Car cela est agréable dans le Seigneur. Mais vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » C'est-à-dire, n'exigez pas l'impossible. Ne les poussez pas à la rébellion en ayant des exigences qui ne sont pas de leurs possibilités. Vous voyez ? Donc, il y a une prise en compte aussi de celui qui est subordonné. une exigence, mais une exigence mesurée, raisonnable. Bon, en résumé, vous avez compris que je vous ai embarqué ni à droite ni à gauche. La Bible, pour moi, n'est ni de droite ni de gauche. Elle nous propose une sorte d'équilibre. Et puis, bien sûr, plus sur le plan spirituel que politique. Elle se préoccupe de nos pensées beaucoup plus que du fonctionnement de la société. Et je dirais même, parce qu'on est quand même dans des pays où l'influence chrétienne est importante, nos lois, notre code, l'origine de nos lois est judéo-chrétienne, profondément. Donc, on ne peut pas nier que le christianisme ait influencé la pensée dans la société occidentale. La gauche et la droite, pour moi, se sont inspirées de valeurs bibliques, plus ou moins, parfois amplifiées ou déformées. Voilà, je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder les choses, en réalité. Je vais faire quand même une petite remarque. Je ne sais pas si vous avez vu au passage, j'avais souvent des passages de l'Ancien Testament plutôt de droite et beaucoup plus des choses qui correspondent à la gauche dans le Nouveau Testament. Alors, je dirais ceci, on trouve un peu plus de valeur de droite dans l'Ancien Testament et un peu plus de valeur de gauche dans le Nouveau Testament. Peut-être que ça veut dire que l'Église peut fonctionner sur un idéal de gauche, de partage, de confiance, voyez, de support, alors que le monde incrédule a peut-être plus besoin d'une politique de droite, parce qu'il faut quand même tenir un peu les gens, parce qu'on ne peut pas compter toujours sur leur bonne volonté. Voyez. Regardez les printemps arabes, par exemple. Quand la Tunisie a basculé, on a très vite regretté le temps des dictateurs, parce qu'on s'est aperçu qu'on partait dans un peu n'importe quoi, vous voyez. Il y a des fois où, s'il n'y a pas la poigne, il y aura des Kadhafi aussi en Libye, hein, s'il n'y a pas la poigne d'un dictateur, ça tourne mal. Donc, vous voyez, dans le monde qui a rejeté Dieu, c'est parfois difficile d'arriver à un système démocratique qui soit efficace. Voilà. Alors, sans doute que, du moins si les citoyens ne sont pas vraiment de bonne volonté, un système autoritaire est malheureusement indispensable. Alors, on va passer maintenant à la question du vote. Donc, il y a deux grosses questions. Maintenant, c'est le vote et puis s'impliquer en politique. Mais avant ça, on va faire une petite pause. Je vous propose de chanter ce cantique qui évoque le moment où, bien sûr, le Seigneur Jésus viendra pour régner sur la terre. Et là, tout sera beaucoup plus simple. On peut se lever. Vous le connaissez, 109 de reflet. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, on peut en trouver un autre. Voyons lever la main ceux qui le connaissent.
Bernard, un peu.
Un peu. Allez, on essaye. Je veux bien entonner. Tout genou pliera, toute langue dira, Christ est Seigneur. Vainqueur de la mort à tout jamais. Saura que Christ est roi, vainqueur de la mort à tout jamais. Tous verront sa force et sa puissance et sa gloire couvrir. Toute nation, notre roi, des rois, règnera sur tout l'univers. Et en ce jour, tous se réjouiront, car la voix de Dieu proclamera son royaume sur Jérusalem.
ressuscité est le Seigneur. Tous verront sa force et sa puissance et sa gloire recouvrira tout l'univers. Son royaume s'étendra à toute nation. Notre roi des rois règnera sur tout l'univers.
Merci. Vous asseoir. Alors concrètement maintenant, parce que pour l'instant on a beaucoup parlé d'opinion, de pensée, maintenant on va parler d'action. Faut-il voter et pour qui? Puis ensuite, peut-on s'impliquer dans la politique? Tout d'abord le vote. Alors, j'entends beaucoup parmi les chrétiens d'arguments pour et contre. Du côté du oui, du pour, l'idée c'est de dire nous sommes le sel de la terre, nous sommes là pour... On va rebondir un peu là-dessus, pour apporter notre grain de sel. Nous sommes détenteurs de valeurs et autant voter pour ceux qui défendent ces valeurs. Les valeurs chrétiennes doivent être promues, car elles sont bonnes pour tous. Ce que nous enseigne la Bible, c'est bon pour l'Église, mais c'est aussi bon pour la société. Donc autant donner notre bulletin à celui qui les défend. Et donc s'abstenir, c'est favoriser les mauvais candidats, ceux qui vont tirer notre pays vers le bas, vers la désobéissance à la Bible ou vers des mauvais fonctionnements qui vont pénaliser les pauvres ou qui vont désorganiser la société, etc. Pénaliser la famille. Donc il ne faut pas laisser faire ces mauvais candidats. Et puis, dernier argument, bon là il est incontournable, c'est que dans certains pays c'est obligatoire. Belgique, la Grèce, l'Australie et je crois même un canton de Suisse, si je ne me trompe pas. Le canton de Schaffhouse. Oui, il paraît que dans le canton de Schaffhouse, le vote est obligatoire. C'est un petit canton, hein, visiblement. Bon, voilà. Alors, dans ces cas-là, ben, les chrétiens votent, hein, parce que c'est obligatoire. Puis, s'ils ne veulent pas voter, ben, ils votent blanc. Hein. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà pour le oui. Pour le non, on dira, ben, nous sommes citoyens du ciel. Voilà, nous sommes désintéressés de ce qui se passe sur la terre. Philippiens 3, on l'a cité. Donc, nous ne nous impliquons pas dans la vie politique. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, il a dit, voilà, il a dit à Pilate, hein, d'ailleurs. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici, voilà, j'ai été rejeté, donc je ne cherche pas à imposer ma royauté, je suis rejeté. Donc nous le suivons et nous nous désintéressons à la politique. Et puis, la politique, on peut dire aussi, ne sert à rien, c'est pas en modifiant le fonctionnement de la société qu'on va l'améliorer, ce qu'il faut, c'est changer les cœurs, que les gens changent à l'intérieur. Donc ce combat est vain, finalement. On travaille sur la surface et non pas sur l'intérieur. Et puis d'autres diront, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est Dieu qui établit les rois, hein, qui décide de tout. Tout ça est sous sa domination. Son projet s'accomplira, quoi qu'on fasse. Donc laissons-le faire. Ou encore, je ne peux pas donner mon approbation à quelqu'un qui n'est pas totalement conforme à la volonté de Dieu. Pour quand je vote pour un candidat, il faudrait qu'il soit à 100% dans la volonté de Dieu. Et est-ce qu'il existe un candidat comme ça, voyez? Aucun candidat ne mérite notre adhésion. C'est encourager quelqu'un à faire peut-être des choses bonnes, mais il y a aussi des mauvaises choses dans son programme. Donc je n'arrive pas à mettre ma confiance en quelqu'un. Alors j'entends ces deux arguments, ces deux catégories d'arguments, mais j'ai fait mon choix. Hein, je vous l'ai dit l'année dernière, quand c'est comme ça, moi je vous propose les deux possibilités, mais je vous dis quand même ce que personnellement je fais. Depuis 20 ans, avant je ne m'étais pas trop posé la question, donc je ne votais pas. J'ai voté à toutes les élections, sauf une fois. Ce n'est pas que je m'en suis désintéressé, c'est que j'ai vraiment examiné les deux candidats et je n'arrivais pas à voter pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Je ne vous dirai pas quand c'était. Peut-être que vous allez le deviner par la suite. Là, je n'arrivais pas à dire... Je disais, je ne peux pas voter pour tel candidat, je ne peux pas voter pour tel candidat. Je ne peux pas. Donc, je me suis abstenu. Donc, je pense que les chrétiens ne doivent pas chercher à prendre le pouvoir. On est d'accord là-dessus. Mais qu'ils doivent saisir l'occasion de donner leur opinion quand on la leur demande. Voter, c'est donner votre opinion. Et lui donner aussi la possibilité d'être retenu, puisque vous votez, vous ne dites pas seulement oui, vous mettez en place quelqu'un qui va la promouvoir, cette valeur. Donc, c'est mon avis personnel, mais je comprends aussi qu'on en ait un différent. Ce serait dommage de ne pas se profiter du bulletin de vote pour mettre en avant notre manière de penser. Parce que nous ne sommes pas appelés à la prise de pouvoir, mais nous sommes appelés à dire la vérité. Ça, c'est quand même notre mission. Donc, ensuite, il y a la question, pour qui voter ? Alors, encore une fois, je ne vais pas vous dire pour qui, mais je vous propose une procédure. Si du moins vous êtes convaincu qu'il faut voter, déjà, il faut en faire un sujet de prière, c'est quelque chose de sérieux. Je dirais qu'il faut voter comme si le candidat qu'on a choisi allait être élu. Moi, je le fais comme ça, je me dis, je veux voir qui à la tête. Voilà. Je fais comme si c'était lui qui allait passer. Qu'est-ce qui va se passer s'il passe ? Donc, il faut bien connaître les programmes, connaître les personnes, qui est le plus compétent, qui est le plus exemplaire, qui est le plus juste. Si possible, est-ce qu'il y en a qui est chrétien ? C'est mieux. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment s'intéresser de près. Si on vote, il faut regarder ça de près. Et donc, il faut se poser la question, c'est quoi un bon homme politique ? Pour moi, un bon homme politique, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de service par rapport à son pays. Ce n'est pas quelqu'un qui est carriériste, qui cherche à être en haut pour se faire plaisir. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui a une vision pour son pays et qui veut être au service de son pays. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a défini l'autorité. Il leur dit, il dit à ses disciples, Jésus les ayant appelés auprès de lui, dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, que les grands use d'autorité sur elle, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le meilleur chef, c'est celui qui se fait l'esclave de tous, qui se met au service de son pays. Il est dans cette disposition. Alors, c'est important de discerner un peu si tel et tel homme politique ou femme politique est dans cet état d'esprit ou pas. Des fois, ça crève les yeux quand même, aussi, il y a des valeurs de justice, l'absence de démagogie. Un roi, par le juste jugement, affermit le pays, mais l'homme qui accepte les présents le ruine. Pour moi, un président qui fonctionnerait qu'avec les sondages, par exemple, qui ferait tout ce que les Français demandent, ce ne serait pas un bon président, ce serait un démagogue. Parce que parfois, l'opinion publique se trompe. Et donc, il faut assumer à un moment donné de dire... il faut savoir l'argumenter aussi, c'est parfois difficile, mais de dire, je sais que les Français sont majoritairement contre, mais je vais le faire quand même parce que voilà pourquoi c'est bon pour le pays. Ça s'appelle l'absence de démagogie. C'est une limite de la démocratie, mais si c'est la démocratie absolue, c'est simple. Moi, je vais me présenter en disant, écoutez, je supprime tous les impôts. Tout le monde va voter pour moi, mais ça sera une catastrophe pour le pays. On est d'accord. Alors voilà ce que je vous propose, c'est de. Oula, on ne voit pas très bien. C'est d'utiliser ce genre d'outils. Alors j'avais fait ce tableau dans une rencontre de jeunes en 2017, vous voyez, avant le premier tour. C'était un des sujets qu'on avait fait face à l'actualité. C'était un thème avec un groupe de jeunes. Et donc j'avais trouvé dans La Vie des éléments. Le journal La Vie est très bien pour ça. Avant chaque élection, vous allez avoir ce type d'informations. La position de chaque candidat sur des thèmes importants pour nous chrétiens. Vous voyez, j'avais fait ce tableau. On voyait les 1, 2, 3, 4, 5, 6 principaux candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils croient ? Catholique, mais enfin bon, vous voyez, Dupont-Aignan, par exemple, catholique, mais il dit « je suis un chrétien qui doute » ou un agnostique qui croit. Bon, ça me paraît un peu léger pour être catholique quand même. Donc, catholique ou pas, baptisé à sa demande, Macron. Mais après, il ne parle plus de religion. Mélenchon panthéiste. Bon, vous voyez, là, on voit un petit peu qui croit quoi. Ensuite, sur la famille, sur leur famille, comment fonctionne leur famille, eux. Voilà. Au niveau des affaires, est-ce qu'ils sont impliqués dans des affaires ? Alors, on avait Fillon à l'époque en cours, vous voyez. Le Pen passé et en cours. Par rapport à les GPA, ils étaient tous contre. Donc là, c'était simple. La PMA pour les couples de même sexe, vous en aviez la moitié qui était pour, la moitié qui était contre. L'adoption plénière par les couples homosexuels, moitié pour, moitié contre. Et le mariage gay, même si c'était déjà passé, quelle position avait-il prise, oui ou non. Vous voyez ? Bon, ça a permis de situer un petit peu. Donc moi, j'encourage, avant une présidentielle, à avoir ce type d'outils, parce que vous n'allez pas donner votre voix à quelqu'un qui va mettre en place quelque chose qui est vraiment contraire à la Bible. Hein. Puis j'avais relevé aussi des petites phrases, vous voyez. Marine Le Pen, je suis absolument croyante, mais je suis un peu fâchée avec l'Église. Du coup, je suis une catholique des parvis. Je ne dois pas être la seule en France. Je vais à l'Église dans les grandes occasions, mariage, baptême, Noël, Pâques. Mes enfants sont baptisés, ils ont fait leur communion. Dupont-Aignan, vous voyez, je suis un croyant qui doute ou un agnostique qui croit, ça dépend. Bon, c'est bizarre ça. Fillon, lui c'était quand même assez clair, je suis gaulliste et de surcroît, je suis chrétien, la fameuse phrase hein, à la télévision, vous en rappelez. Cela veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne et de la solidarité. Macron, une phrase que j'avais trouvée très positive, dans sa conscience profonde, je pense qu'un catholique pratiquant peut considérer que les lois de la religion dépassent les lois de la République. C'est pas rien une phrase comme ça. Ça veut dire qu'il accepte l'idée qu'à un moment donné, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il comprend qu'un citoyen français puisse dire « je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Tout le monde n'a pas le courage de dire ça. Quand vous entendez des musulmans sur les plateaux de télévision, qu'est-ce qui est plus important ? On leur demande « qu'est-ce qui est plus important pour vous ? Obéir au Coran ou obéir à la République ?»« Ah, la République, bien sûr !» Oui, tiens mon œil. Hein ? Alors lui, il assume. Hamon, nous avons tous des racines chrétiennes incontestables. Moi, je suis un enfant baptisé. Je sais la place que ces racines dans ma propre vie, dans ma culture, mais cela ne me remplit pas pour autant. Cela ne dit pas tout de moi. Bon, voilà. Mélenchon, lui, c'est clair. Je suis matérialiste. Ce matérialisme peut d'ailleurs avoir une coïncidence avec le panthéisme. Nous sommes des individus régis par notre univers matériel, le corps inorganique de l'homme. C'est l'univers tout entier, comme le dit Karl Marx. Voilà. Vous voyez, il faut avoir lu des phrases comme ça, parce que ça vous donne une petite idée de qui est là. Ensuite, je voudrais vous présenter aussi deux partis chrétiens qui existent en France, donc le PCD et les Authentiques. Donc le PCD, c'est le parti de Christine Boutin. Il a été créé en 2001. Ensuite, il a pas mal d'élus locaux, surtout dans les municipalités. Il y a des maires PCD et des conseillers municipaux en grand nombre. Et en 2015, ce parti a obtenu 5 conseillers régionaux, 5 conseillers départementaux. Ensuite, elle a passé la présidence à Jean-Frédéric Poisson, qui s'est présenté, rappelez-vous, à la primaire de la droite. Hein. On le voit ici, d'ailleurs, à l'image, là. Il n'a pas gagné, bien sûr, mais enfin, il a quand même défendu un certain nombre d'idées. Un fait qui m'a énormément frappé, c'est qu'en 2016, Christine Boutin a été condamnée à 5 000 euros d'amende pour avoir qualifié l'homosexualité d'abomination. En réalité, elle a dit que dans la Bible, l'épître aux Romains, non, il est dit que l'homosexualité est une abomination. Pour dire, voilà, vous comprenez aussi qu'à un moment donné, on est un peu choqué. Elle a été alors condamnée, appel, etc. Et puis finalement, elle a perdu, elle a dû payer 5 000 euros d'amende. C'est quand même, pour moi, c'est quand même une atteinte à la liberté d'opinion. Parce que Christine Boutin n'a pas appelé à lyncher les homosexuels, que je sache.
Ça, on en reparle après.
OK.
Vas-y, continue.
Oui, je continue. D'accord. En 2017, le PCD a présenté des candidats, aucun n'a été élu aux législatives. Alors évidemment, c'est un petit parti, sans alliance, il ne pourra jamais avoir de députés. Donc, le credo du PCD, c'est une vision chrétienne de la famille. Leur combat, il est surtout, il a été contre le mariage gay, et maintenant, il est sur la PMA, la GPA, il est sur ces questions-là, et la bioéthique aussi. Hein. Voilà. Positionnement plutôt à droite, puisque... Jean-Frédéric Poisson s'est rallié à François Fillon. Un autre parti, plus petit, Alors, qui a commencé par s'appeler le Parti républicain chrétien. Il a été créé en 2005. En 2016, il a été rebaptisé Les Authentiques. Donc, c'est Patrick Giovannoni qui est le président, enfin, qui est le fondateur. Il y a un autre président maintenant. Je trouve cette idée assez intéressante. Alors, c'est vraiment une optique assez biblique. C'est gouverner par l'exemple, mieux vivre ensemble en changeant les cœurs. Vous voyez, ils sont dans la démarche de... On sait que si on veut changer le monde, il faut changer les cœurs. C'est intéressant au niveau chrétien. Par contre, évidemment, on se demande presque ce que ça fait dans la politique, puisque l'idée, c'est de changer les cœurs. Vous voyez. Donc, à la fois, personnellement, je me sens très, très proche de ces idées-là. Par contre, j'aurais du mal à voter pour eux puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire de politique. En gros, c'est qu'ils veulent simplement que les cœurs changent. Vous voyez, donc c'est une sorte d'ovni dans la politique. Hein, voilà. Et résultat, ils ont bon positionnement au centre, hein, ce sont des modérés. Résultat, ils n'ont aucun élu et leur activité aujourd'hui semble au ralenti. Voilà. Alors, ce n'est pas pour forcément vous encourager à voter par ces partis, mais je pense que c'est important qu'on connaisse ces partis. Sixième question. Après le vote, les chrétiens peuvent-ils faire de la politique, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie politique? Alors, on va voir des exemples bibliques comparables. Je dis bien comparables, parce qu'on pourrait prendre les rois d'Israël, ils ont tous fait la politique, mais c'était complètement différent, c'était le peuple de Dieu. Non, je vous propose des hommes qui ont fait de la politique dans un contexte païen, des hommes croyants, qui ont participé à la politique dans un contexte païen. C'est ça qui est comparable quand même à notre situation où la République française, elle a beaucoup de valeurs d'inspiration chrétienne, mais elle n'est pas chrétienne, hein, elle est laïque. Bon. Donc voilà que Lot s'installe à Sodome, donc c'est une ville païenne et en plus dépravée. Il s'installe à l'entrée de Sodome, puis il s'installe dans la ville, et puis quand des anges viennent, il est à la porte de Sodome, ce qui semble vouloir dire qu'il a un rôle de juge, hein, puisqu'on voit dans Josué chapitre 20 que les juges sont assis à la porte de la ville. Donc on voit Lot, qui est devenu un petit peu un homme de confiance dans la ville de Sodome. Alors, comment ça tourne? Eh bien, malheureusement, quand les anges viennent, donc il se réfugie chez lui, les hommes de la ville viennent. Bon, ils veulent les violer, hein, soyons clairs. Et lui, il les protège. Et pour les protéger, il leur propose ses filles. Alors, c'est quand même catastrophique. C'est-à-dire qu'il se trouve à faire des propositions invraisemblables. On voit qu'il est, il est pris par le système mauvais de Sodome et il ne sait plus comment faire. Et il commet l'irréparable. Donc, face au mal, il perd les pédales complètement. Et puis ça finit mal, puisque Dieu va détruire la ville de Sodome, il s'enfuit avec sa femme et ses filles, sa femme va se retourner, hein, symboliquement, un peu dans le regret de ce qu'elle a vécu à Sodome, elle avait pris peut-être goût à cette ville des plaisirs, et elle devient une statue de sel. Et ses filles ensuite vont le faire boire et vont commettre l'inceste avec lui pour lui donner une postérité. Donc vous voyez la fin tragique de cette famille, catastrophique. Donc on peut dire que Lot a été dépassé par le monde de Sodome, il a été influencé et il a tout perdu. Moralement, tout perdu. Donc c'est un mauvais exemple. Ensuite, Joseph. Joseph va devenir ministre du Pharaon. En devenant ministre du Pharaon, il va faire stocker donc, du blé pendant cette année. Dans ce sens-là, il va faire une bonne politique, il va sauver la situation en Égypte. Et en même temps aussi, il va sauver sa propre famille. Et puis même son père ensuite va venir s'installer en Égypte. Et le Pharaon va être bienveillant envers cette famille de Joseph et va lui donner la meilleure partie du pays où ils vont s'installer. Donc, vous voyez que finalement, Joseph, l'activité de Joseph, elle est profitable pour le pays. Mais elle est aussi profitable pour ses frères, donc pour nous, pour les chrétiens. Qu'il y ait des hommes politiques chrétiens dans nos pays, c'est bon pour le pays, et puis c'est bon pour les chrétiens aussi, parce que ça nous garantit une protection. Vous voyez? Donc voilà quelque chose qui est assez inspirant, finalement. Donc également, même le pharaon est influencé par la foi de Joseph, puisqu'à un moment donné, le pharaon va glorifier Dieu. Hein, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi, tu seras sur ma maison. Vous voyez, le pharaon reconnaît la gloire de Dieu. Et on voit aussi que Joseph résiste à l'ambiance idolâtre de l'Égypte. Il faut voir qu'il est coupé de sa famille depuis longtemps. Bon, on va lui donner une femme égyptienne, sans doute idolâtre, bien sûr. Il n'a pas trop le choix, en réalité. Il va avoir deux enfants et il va quand même donner à ses deux fils, donc Éphraïm et Manassé, des noms pieux, hein, puisque Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine, voilà, et puis Éphraïm, Dieu m'a fait fructifier. Vous voyez, il n'est pas pour autant absorbé comme Lot par l'ambiance et il garde la foi et on le voit dans la manière de nommer ses fils. Troisième exemple, Daniel, c'est pareil. On voit qu'il est fidèle, il a des rivaux, mais qui ne trouvent pas de choses à lui reprocher, qui vont essayer de le piéger, il continue à être fidèle à Dieu, à prier, il se retrouve dans la fosse aux lions, Dieu le délivre. Donc voilà quelqu'un qui a un bon témoignage, qui résiste totalement à la pression et qui est reconnu comme un bon homme politique aussi chez les Babyloniens et les Perses. Et Nebuchadnezzar, autant que Darius, à un moment donné, vont rendre gloire à Dieu au travers du témoignage de Daniel. Hein? On le voit à la sortie de la fosse aux lions. Voici ce que dit Darius. « De par moi, l'ordre est donné que dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. » Donc, il y a une influence vraiment positive de Daniel sur les gouvernants. Alors, la limite, c'est que c'est vrai que Joseph et Daniel peuvent difficilement être considérés comme des hommes politiques. Ce sont plutôt des hauts fonctionnaires, en réalité, puisqu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Ils sont des sortes de ministres. C'est plutôt des hauts fonctionnaires. Ce sont pas des, ils incarnent pas l'autorité. Ils sont plutôt dans le fonctionnement de la société. Et puis, on a un exemple dans le Nouveau Testament. C'est Éraste, donc dans Romains 16. Dans les salutations, Paul transmet les salutations de Éraste, l'administrateur de la ville. Alors, on ne peut pas imaginer que ce n'est pas un chrétien, puisqu'il transmet des salutations. Donc, il y a un administrateur de la ville qui est chrétien. Alors, vous allez me dire, mais c'est sûrement un ancien administrateur qui s'est converti. Sans doute. Hein, c'est comme Serge Paul, c'est comme Publius, tout ça, c'est des responsables qui se sont convertis. Pour autant, rien ne nous laisse penser que Éraste s'empresse de démissionner, etc. Hein? Donc, voilà. Alors, on n'a pas grand-chose hein, sur lui, mais on peut penser qu'il a continué à exercer ses fonctions en étant chrétien. Donc, j'ai mis un feu orange parce qu'on n'a pas trop d'éléments pour dire ce qu'il en est advenu. Voilà. Alors, là aussi, on peut résumer, finalement, l'intérêt de faire de la politique pour un chrétien et les dangers. L'intérêt, c'est toujours pareil, c'est que nous sommes le sel de la terre. Alors, apportons notre grain de sel. Et puis, chacun a des talents. Si un chrétien a des talents politiques, des talents pour organiser, pour diriger, il serait dommage qu'il ne les fasse pas fructifier. Hein, ça fait partie des bagages que Dieu nous donne. Et puis, en même temps, aussi, la présence des chrétiens est souvent une protection pour les chrétiens persécutés. Je vais en parler, mais j'en parle tout de suite. Vous voyez, à l'Assemblée nationale, quand même, en France, il faut savoir qu'il y a deux organes intéressants. Il y a un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient, co-présidé par Claude de Goasguen et Gwendal Rouillard, qui invite régulièrement Portes Ouvertes, donc l'organisme d'information sur les chrétiens persécutés à l'Assemblée. Et en 2018, cet organe donc, de l'Assemblée nationale a fait pression sur le gouvernement algérien et a obtenu la réouverture de 4 églises en Algérie. Vous voyez, on ne le sait pas, mais il se passe, on a quand même des diplomates aussi et des députés qui interviennent pour défendre les chrétiens dans le monde. Au Sénat, il existe aussi le groupe de solidarité avec les chrétiens et minorités d'Orient, présidé par Bruno Retailleau. C'est aussi un groupe de réflexion et de pression, éventuellement, pour aider les chrétiens persécutés. Alors, bien sûr, après, il y a des dangers, parce que même la pratique de la démocratie, c'est quelque chose qui a des zones d'ombre. Hein. Si on veut aller loin en démocratie, arriver tout en haut, il faut savoir tuer ses amis, hein, on le sait. Si vous voulez être le candidat de votre parti, il faut éliminer les rivaux. Donc, c'est quand même un exercice qui n'est pas très moral.
Les Perses, on l'a fait trop mal.
Oui, mais enfin, c'est difficile, parce qu'eux aussi, ils ont envie d'aller en haut. Hein? Voilà. c'est pas le meilleur des mondes, hein, le monde de la politique. Il faut savoir promettre l'impossible. Il faut faire des promesses de campagne qu'on ne pourra pas tenir, souvent. Et puis, il y a la loi de la majorité qui vous oblige, à un moment donné, même en étant président de la République, vous ne pourrez pas aller contre quelque chose qui est antichrétien et qui a été voté par votre Assemblée nationale. Voilà. Hein, donc, la majorité décide. Donc, et puis, il faut faire appliquer des lois parfois iniques. Et puis, alors je me situe dans une échelle un petit peu plus basse, hein, d'un engagement plus local. C'est peut-être plus facile, mais c'est quand même quelque chose de chronophage, d'envahissant. Vous devenez un homme public, une femme publique, et donc vous avez des obligations, vous avez des comptes à rendre en permanence. Ça peut devenir quelque chose qui vous prend toute la vie. Alors, je veux parler un peu de mon expérience, parce que je suis un élu local, mais enfin, je suis conseiller municipal dans mon village. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais...
Combien d'habitants dans le village ?
1300 habitants. Donc, à Bouy-Bezin, ce joli village, mais enfin, vous ne le voyez pas parce que l'image est floue, depuis 2014. Alors, qu'est-ce que j'y vois de positif et qu'est-ce que j'y vois de négatif ? Positif, c'est que j'ai eu l'occasion d'apporter une touche chrétienne, quand même, honnêtement. Dans un village, vous savez, il y a souvent des rivalités, il y a des anciens opposants qui sont persona non grata. J'essaie d'apporter toujours un esprit de paix, de conciliation et de respecter tout le monde et pouvoir travailler avec tout le monde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai aussi fait valoir à quelques reprises les racines chrétiennes, bon, sans succès, puisqu'on a, on avait un presbytère, un ancien presbytère avec des sœurs qui habitaient dedans. La question s'est posée, elles partaient. Est-ce qu'on fait revenir des ecclésiastiques ? Malheureusement... Moi, j'ai dit oui, je faisais partie de ceux qui étaient pour. La majorité a été contre, et donc on a loué à des locataires quelconques le presbytère. Aussi, une fois, il y a eu un parcours de promenade qui a été fait dans le village par la communauté de communes, et il fallait un slogan pour ce parcours, pour définir le village en deux mots. Alors, il a été proposé entre train et moulin, parce qu'on a la voie ferrée d'un côté et un canal avec des moulins de l'autre. Bon, moi, je ne trouvais pas ça génial, et j'ai proposé entre ciel et terre. Parce qu'à Bouy-Bezin, donc dans ce village, nous avons... Bon, c'est un pays d'agriculteurs, enfin, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a beaucoup de terres agricoles, par contre. Et on a aussi quatre églises. Parce qu'on a une église catholique, une église réformée, une assemblée de frères et une église pentecôtiste. Et donc, j'ai trouvé que entre ciel et terre, ça montrait voilà, l'ancrage dans la terre, le terroir, et aussi le côté chrétien. Et donc, on a adopté entre ciel et terre. Ce n'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est mieux qu'entre train et moulin. Voilà. la possibilité de changer des choses, bien sûr, quand vous êtes dans une municipalité, surtout si vous êtes maire ou adjoint, on peut vraiment changer des choses dans le village. C'est à échelle humaine, donc ça fait plaisir de voir des choses s'améliorer. Négatif, c'est quand même ingrat. Vous n'en avez pas pour longtemps à vous faire des ennemis parce que, suivant si vous votez pour ou contre quelque chose, il y a quelqu'un que ça ne va pas arranger, donc vous allez vous faire mal voir, hein, puis vous donner une opinion sur quelque chose. Forcément, il y a des gens qui ne pensent pas de la même manière. Vous avez vite fait de susciter de la réticence. C'est très chronophage parce que si on veut vraiment s'impliquer, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'il faut faire des courbettes aux bonnes personnes. C'est-à-dire, si on veut obtenir l'aide des instances un peu plus élevées, il faut aller faire des courbettes. Et ça, c'est quand même un peu pénible. Voilà. En tout cas, personnellement, je ne regrette pas ce mandat. Je pense repartir en 2020. Mais en tout cas, personnellement, dépasser le niveau municipal me paraît impensable. Avant tout parce que ça me prendrait trop de temps, et ce n'est pas le but central de ma vie. Et aussi parce qu'ensuite, on entre dans un jeu politique où il faut appartenir à un parti, ça devient beaucoup plus compliqué. Dans un village de 1300 habitants, on est tous sans étiquette, on est là pour défendre les intérêts communaux, et point final, c'est beaucoup plus facile. J'ai combien de temps, là ? J'ai dépassé le temps ? J'en ai plus. Alors, j'ai trois questions d'actualité dans le débat. Oui. OK. Donc, on s'arrête là.
D'accord. Donc, on va faire une